Rémi Cluzeau, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur la radio du cinéma. Avec, c'est vrai qu'on a peu l'occasion de parler de ce qui est diffusé sur YouTube, ces séries. En l'occurrence, il s'agit de la Flip, série d'horreur. On va commencer par présenter les protagonistes. On va faire comme pour les histoires, les affaires judiciaires. Qui sont les protagonistes de cette série?
Alors, les deux protagonistes, n'est-ce pas, sont Jethro Barr, qui est l'auteur et le narrateur, donc, que vous retrouvez dans la série, qui est l'auteur de toutes les histoires. Et donc, moi, Rémi Cluzeau, je suis le réalisateur et je suis aussi le producteur, puisque ma société, We Are What We Do, produit la série. Voilà, ça fait 2 ans on développe cette aventure.
Avec donc une visibilité sur YouTube. Alors, on va expliquer un peu le format et effectivement la ligne directrice de cette série.
Alors en fait, bon, déjà pour la petite histoire avec Jethro, ça fait 30 ans qu'on se connaît. On s'est connus dans le milieu du hip-hop des années 90. Donc lui était auteur, rappeur. Moi, je faisais de la musique. Donc c'est par la musique qu'on s'est rencontrés, qu'on a ce lien, et puis on est tous les deux passionnés de cinéma, de films de genre, de musique, dans tous les genres divers et variés, et puis on s'est retrouvés via les réseaux, et voilà, et puis moi je fais de la réalisation, je suis toujours, comme le nom de ma société c'est We Are What We Do, j'ai toujours besoin de chercher des projets et des gens qui écrivent, voilà, donc en fait c'est un peu le parti pris de départ. Et Jethro est un passionné de tout ce qui est étrange, de faits divers, d'histoires, horreur. On est fan de Carpenter, des Contes de la Crypte. On est fan de Temps X. D'ailleurs, les frères Bogdanov qui nous ont quittés, nous, c'est toute notre enfance, donc la quatrième dimension. Et puis, avec YouTube, avec les réseaux sociaux, avec tous ces YouTubeurs, etc., nous, on s'est dit qu'on avait une place à prendre avec un programme, avec une forme de quelque chose qui se rapproche de Pierre Belmar, des histoires racontées face caméra dans notre univers où moi je peux m'exprimer aussi avec la musique, une mise en scène très très simple, très épurée, et puis c'est Jethro avec sa voix et son charisme et ses mots et ses histoires tordues qui font le reste, enfin qui font la différence, voilà. À la base, on n'était vraiment pas destiné, pour la petite histoire, à YouTube, hein. On a fait un pilote, on voulait nous aller le vendre et essayer d'aller le placer en télé ou sur une chaîne. Voilà, c'était... On avait une ambition un peu plus que d'être juste sur YouTube. Et puis, la crise du Covid est arrivée, le confinement. Et puis, finalement, on avait notre pilote, tout le monde chez soi. Et là, on s'est dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va nous demander, mais qui c'est votre cible? Est-ce que vous avez du réseau? Est-ce que vous avez du public déjà pour ça? Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse nos preuves, il faut qu'on crée notre chaîne et qu'on balance un premier épisode. Voilà, ça a commencé comme ça.
Voilà, épisode de 9 minutes. Il y en a 8 au total, c'est ça?
Alors il y a une première saison, en fait, qu'on a balancée sur YouTube. Donc on s'est vrai qu'on s'est retrouvé, un peu pris de court parce qu'on avait fait juste 2 pilotes. Puis une fois qu'on rentre dans ce YouTube game, où là il faut avoiner, quoi, faut envoyer tout le temps, on est sur la récurrence. Donc, du coup, on a dû se voir, trouver des solutions pour tourner. Donc, c'est pour ça que la mise en scène aussi était très simple. Un borgnole noir, un fond noir, Jethro face caméra. Et après, c'est l'imaginaire et les sons qui aident juste à imaginer les histoires et à visualiser. Donc, du coup, des coûts de production moindres. Après, des épisodes un peu longs à monter, etc. Mais facilement livrables, voilà, pour envoyer au public qui a joué le jeu, puis il y avait une vraie demande. Donc c'est vrai que première saison sur fond noir, et puis une deuxième saison qu'on a fait en fin 2021, avec un peu plus de mise en scène, avec Jethro qui se retrouve directement dans les décors, on va dire, des histoires, dans le cadre des histoires. Ouais. Et puis la saison 1 a été sélectionnée au festival de la fiction de La Rochelle, donc là on était contents pour un programme YouTube. On était les seuls, hein, d'ailleurs, à représenter YouTube, parce que nous on a... Indirectement, on est diffusé par YouTube, mais on n'a pas de contrat avec YouTube, quoi.
C'est une étape. C'est une étape. C'est,
oui,
c'est, ça vous sert de, à la fois de dossier de presse, de CV, et de présentation. Dans le meilleur des mondes, ce serait de garder ce format-là avec Guétreau qui raconte ses images, ses histoires, ou alors de vraiment mettre ses histoires, mais cette fois avec des comédiens, avec une mise en scène. Avec, c'était alors, ça le but final ?
Oui, alors en fait, dès le départ, c'est même le but initial. Ça veut dire que moi, je suis fan de la série Black Mirror, qui est diffusée sur Netflix, qui reprend un peu ce concept de la quatrième dimension avec des épisodes où on n'a pas besoin, on peut voir l'épisode 7 sans avoir vu l'épisode 5. Chaque histoire est unique, originale, et l'histoire ne se suit pas. Et moi, je suis fan de ça. Ça veut dire qu'un épisode, c'est comme un épisode de la quatrième dimension, donc on part de ça. Mmh. Et bien sûr que dans l'idée, dès le départ, c'est moi, je visualise tout de suite les histoires avec... j'ai dit, putain, là, c'est bien, il faudrait y avoir un acteur qui pourrait... Bon, voilà, sauf qu'à la base, on n'a pas les moyens de nos ambitions, donc on part sur Pierre Belmar, une histoire qui va être racontée, mais dans l'idée, bien sûr, de faire un film à sketch un jour, comme la quatrième dimension, comme ce genre de film, avec 6 épisodes qui seraient joués, bien sûr, où Gétro, là, serait lui qu'un fil rouge, peut-être au début, avec le salutation à toi, ou peut-être pas même, mais voilà, dans une salle spéciale, et il aurait tous ses casiers, et puis toutes ses histoires, et l'histoire se déroulerait. Bien sûr, c'est ça l'idée. Il y a aussi l'idée du podcast, le podcast audio, parce que la flip, ça peut exister aussi.
C'est vrai que c'est très radiophonique, ouais.
Voilà, juste en audio, bien sûr. Donc, on est en train de développer tous ces projets-là, pour tout vous avouer.
Avis aux producteurs, aux responsables de chaîne qui nous écoutent. Et en plus, je sais qu'ils sont nombreux. Donc, le contact, c'est directement ta boîte, alors ?
Oui, c'est via We Are What We Do, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur la chaîne YouTube de la Flip, puisque c'est nous qui gérons la chaîne et qui répondons directement aux gens, aux commentaires. Voilà. On a aussi... on fait un appel aux dons aussi sur Tipeee, sur une page Tipeee. Les dons sont les bienvenus pour nous aider à continuer cette aventure.
Allez Rémi, avant de se quitter, on va vous proposer sur la radio du cinéma un épisode, on disait que c'était très radiophonique, et bien vous allez le constater, l'imagination va jouer maintenant son rôle. Qu'est-ce qu'on pourrait diffuser comme extrait, en tout cas comme épisode, Rémi ?
Moi, je vous propose un épisode de la saison 2 qui s'appelle La Cave qui parle. Et à très bientôt, merci encore pour l'invitation.
Salut Rémi, au revoir.
Salutations à toi, qui que tu sois. T'es peut-être pas au courant, mais j'en ai une bonne à te raconter. Approche. Jouer à se faire peur est essentiel pour un bon équilibre mental. C'est vrai qu'on soit petit ou grand, on le fait juste différemment. N'est-ce pas d'ailleurs ce à quoi nous nous adonnons ici même, de vous à moi, plus ou moins intimement ? Je vous propose donc de retomber en enfance à la recherche de vos frayeurs bien ancrées, tapis là, sous des tas de mauvaises raisons, mais toujours prêtes à vous sauter à la gorge si les conditions sont réunies. Avec Eddie, Sébastien, Céline et Olivier, nous allons explorer ces recoins que vous préférez laisser aujourd'hui dans l'ombre. Si on prend le temps de bien regarder, la ville est un véritable organisme. Il abrite des êtres qui y font leur vie, s'y projettent, y débarquent, en repartent, tout ça grouille indéniablement. La ville est quelque chose qui change, s'étend, se rétracte, s'étoffe, se salit, se maquille, vieillit et parfois finit même par mourir. C'est le cas ici. Quelques anciens villages agglomérés par des dalles de béton, des stations de bus et des centres commerciaux balèzes qui finissent toujours par être sinistres, car la masse y trouve tout ce qu'il faut pour vivoter sans plus réfléchir, si bien qu'elle s'y rend en chaussons, avec son regard torve au bout du rouleau qui dégueule sans que tu n'aies besoin de le dérouler, et où on peut lire le renoncement total à toute esquive de son intrinsèque médiocrité. Tout un programme. Et sous le ciel anthracite de cette ville nouvelle, avalant petit à petit les anciennes modestes communes autour pour remplir son ventre du bruit doux amer de l'activité quotidienne des hommes, les familles évoluent au milieu des parkings impeccables qui sentent l'ouvrage neuf et les bruits incessants d'engins de chantier et autres marteaux-piqueurs qui remodèlent le paysage autour comme leur vie. Lorsqu'on est un gamin d'une dizaine d'années, avec une espièglerie raisonnable et pas grand-chose à faire d'autre pour s'amuser, ce contexte est un terrain de jeu extraordinaire qui stimule l'imagination. Tout le secteur des vieilles maisons abandonnées en attente de se faire démolir pour faire place nette aux nouvelles constructions est le lieu idéal pour l'exploration. Les jeux de rôle et puis se faire peur. Les quatre amis, comme disait Fabrice, que sont Sébastien, Eddy, Olivier et Céline, tous plus ou moins le même âge, à l'école ensemble et tous voisins, ont pris l'habitude chaque mercredi de franchir les grillages qui entourent le vieux quartier en travaux pour le visiter en mode Indiana Jones. Eddy, le blondinet, c'est le meneur. Il trouve toujours une idée pour faire des bêtises qui feront rigoler tout le monde au final. Il est tout le temps dehors quand il n'est pas à l'école. Seb, lui, c'est le rêveur. Téméraire, fou de musique, toujours avec ses écouteurs, il ne parle pas beaucoup, mais ce n'est jamais le dernier à s'embarquer dans l'aventure. Olivier, lui, c'est le rationnel un peu dur. Il est sportif, mais il voit à l'économie de moyens, de fatigue, etc. Il ne manque néanmoins pas de courage et remotive la troupe quand l'ennui pointe son tarbouif. Céline, elle, c'est la fille. C'est la fille qui garde ce qu'elle pense vraiment pour elle. Toujours un peu dans l'intrigue, mais son tempérament rieur et vivant ne résiste pas à traîner avec ses camarades toujours en quête de nouveautés. Parmi les endroits où la petite bande n'a pas encore mis les pieds, il y a 2-3 spots qui leur font gravement de l'œil, autant qu'ils leur inspirent d'ailleurs les plus grandes craintes. Le plus convoité d'entre eux est une petite maison jaune pâle, assez ancienne, que tout le monde, même dans la vie d'avant, appelait la maison du fou. Il y a toujours eu un halo de mystère autour de cette bâtisse mal entretenue de son vivant, son proprio étant communément dénommé le fou, ou le cinglé, car il était de notoriété publique qu'il vivait au milieu d'un bric-à-brac infernal. Ce fou en question, un certain Le Guerne, passait plus ou moins pour un inventeur astucieux, mais incapable d'avoir la rigueur nécessaire pour breveter quoi que ce soit pour lequel il aurait été reconnu. Non, lui, c'était apparemment un fantasque, un original un peu cloche, qui élevait un fils déficient mental, un costaud de presque 2 mètres, brutal et peu sympathique, voire sadique, car il avait la réputation de torturer les chats du voisinage quand il ne s'en faisait pas un casse-dalle après les avoir ébouillantés. Aux dernières nouvelles, la mère était en unité de malade dangereux à l'hôpital psychiatrique de la région depuis longtemps, et ce qui restait de cette famille bizarroïde a versé dans le film d'horreur quand le fils Le Guerne a finalement tué son père en le jetant dans une bétonnière. Il aurait déclaré « Comme ça, un papa à moi pour toujours !» avant de s'en prendre aux gendarmes qui l'entouraient à son procès jusqu'à en mettre un dans le coma. Il a voulu faire de son père une statue, mais c'est lui qui est resté figé presque 20 piges derrière les barreaux, avant, dit-on, de revenir hanter les lieux discrètement, caché au milieu de ce paysage post-apocalyptique qui est aujourd'hui ce quartier. Une légende autour du lieu, le site d'un drame, tous les éléments sont là pour susciter une forte curiosité pour qui veut frissonner gratis. Bien préparés et bien motivés, nos quatre complices décident donc un mercredi de pénétrer dans la baraque du fou pour aller voir ce qui s'y passe. C'est vrai qu'avec ces mannequins jaunis derrière les fenêtres du bas et les pages de journaux collées sur celles d'en haut, un vrai décor d'épouvante est déjà planté. Mais le casse-cou ne se dégonfle pas et entre par la porte principale qui n'est pas fermée à clé. Entre adrénaline, excitation et frousse, les gosses se connaissent si bien qu'ils n'ont pas besoin de parler. Les regards croisés suffisent. Ils se déplacent furtivement de l'entrée salon jusqu'à la cuisine, au milieu des champignons de moisissure géants, du vieux mobilier pété et de cette odeur âcre de merde de rat qui semble être diffusée depuis 50 ans à intervalles réguliers pour être sûr d'en entretenir l'essence. Après un rapide tour, Eddy se met à parler à haute voix aux autres. Il n'y a clairement personne dans ce foutoir oublié de tous. Au final, ce n'est pas très grand à l'intérieur. Il n'y a pas grand-chose à voir, rien d'extraordinaire en tout cas. Des vieux plans, des ébauches de curieuses machines, que de la rouille et du pourri. Une sale sensation de déception s'empare alors des enfants qui affichent tous une moue qui traduit l'ennui naissant. Olivier et Céline descendent de l'étage et confirment que malheureusement, en haut, c'est le vide total. Hormis quelques pièces de literie moisie et des bouquins qui se sont transformés en carton-pâte à cause du trou dans le plafond. Super décevant tout ça. Même les mannequins qui trônent dans le salon ne filent plus la pétoche pour un rond, avec leur visage niais des modes passées. Le moral continue de décliner lorsque Sébastien, resté au rez-de-chaussée, dit fièrement « J'ai trouvé l'entrée de la cave ». C'est vrai que dans ces vieilles baraques, la cave est souvent située derrière ce genre de porte, pile à ce genre d'endroit. Ni une ni deux, les comparses se massent devant. L'excitation redouble parce que les caves, c'est toujours le frisson garanti, c'est bien connu. Lampe de poche en main, Eddy ouvre la porte sans difficulté, au moment où un bruit sourd qui part du bas résonne jusqu'en haut de l'escalier où il se trouve. Tout le monde se regarde, et je peux vous garantir que la chair de poule est drue. Céline, pas rassurée, lance « Attendez, et si le fils Le Guerne vivait encore là, comme le dit la rumeur, il va nous tomber dessus, il est dangereux, je vous rappelle. » Olivier surenchérit « En tout cas, s'il est là, c'est en bas qu'il vit, c'est sûr. C'est tout à fait le genre, et il n'y a aucun signe de vie ailleurs, alors Eddie, volontaire, soufflez lâche. Hein. Eh, vous me saoulez les flippettes. Allez, on rentre. Sébastien lui emboîte le pas, puis les deux autres, résignés. Et sous le poids des quatre, l'escalier vermoulu cède dans une série de craquements terribles. Les gosses tombent avec perte et fracas dans de l'eau croupie. Olivier s'est pété le genou dans la chute. Eddie a lâché sa lampe. La porte d'en haut s'est refermée et ils crient tous, c'est la panique dans l'obscurité totale. Quand soudain, une horrible voix aussi inhumaine que malsaine résonne dans toute la cave.
Papa !
Pour la petite troupe, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est le fils Le Guerne qui est là et qui va leur faire du mal. Cet attardé dangereux qui sort de prison vit là. Ils le savaient et sont tombés dans son piège en pêchant par curiosité. Les quatre barbotent dans la vase dégueulasse de cet endroit isolé qui dégage une odeur de putréfaction. Ils hurlent et s'énervent les uns contre les autres, se heurtent. Ils cherchent les parois, un passage mais en vain parce que c'est le Schwartz total et la peur les ronge au plus profond d'eux-mêmes. Et la voix retentit de nouveau les tétanisant encore plus.
Papa !
Ils ne savent pas où il se trouve ni comment lui échapper, mais il est bien là, à appeler son père qu'il a tué de ses propres mains monstrueuses. Désorienté, à bout de nerfs, c'est l'hystérie. Céline pousse de tonitruants cris de mouette à l'agonie. Sébastien libère le contenu de ses intestins. Eddie glisse dans la vase et la chiasse et vient s'empaler sur un bout de bois pointu de l'escalier tombé. Olivier explose le crâne de Sébastien avec une vieille bouteille trouvée là, croyant que son ombre était celle du débile violent. Avant de succomber lui-même à une crise d'asthme incontrôlable, face à laquelle il ne peut rien faire.
Papa !
Encore cette voix aux inflexions menaçantes suivie d'un rire morbide. Céline, qui n'a presque plus d'énergie, tape néanmoins de toutes ses forces avec ses petits pieds contre un coin du mur qui sonne plus creux que les autres. Elle n'arrête pas. Quand miracle, tout à coup la lumière perce à travers cette trappe qu'elle vient d'enfoncer sans le savoir. Dans tous ses états, elle se rue à l'extérieur et rentre chez elle en tapant la pointe du siècle. Une fois rentrée, l'alerte est donnée et les secours retrouvent bien les petits corps dans la cave. Il n'y avait qu'eux. Pas de traces du dingo qui les a terrorisés. Et pour cause, ils étaient bien les seuls humains dans cette cave de malheur, entourés des rats et des souris qui en ont fait leur crypte. La voix qui les a plongés dans l'effroi provenait en réalité d'une vieille machine parlante du baron Wolfgang von Kempelen. Une relique, collectée par Le Guerne père, ce vieux fou passionné d'invention. Fonctionnant avec de petits passages d'air, les rongeurs l'ont actionné en se déplaçant librement à l'intérieur. Et je peux vous garantir que les sons émis sont pour le moins pas rassurants du tout. On peut aisément compatir avec nos pauvres explorateurs en herbe. À vouloir poursuivre sa propre peur, on rencontre parfois celle des autres. L'addition de toutes ces émotions fortes alimente un monstre invisible et puissant, qui possède tous les visages de toutes les flippes, et qui, mal maîtrisé, peut tout anéantir. N'ayez pas peur.